Pauline Pucciano. Le Septentrion. Acte 1. Tout en haut de la ville, sur le drapeau principal, les deux spirales du Septentrion s'enroulaient toujours, l'une or et l'autre noire. Mais il n'y avait personne pour prêter attention à leur impossible chevauchement, à ce raffinement géométrique qui brouillait la vue et indifférenciait l'origine et la fin, l'intérieur et l'extérieur, de façon si troublante que le signe semblait parfois se mettre à tourner sur lui-même. Pour l'heure, il était immobile, vidé de son sens, et brillait encore faiblement dans ce crépuscule de défaite. Les survivants évacués, le général Dansk fit attendre ses hommes et s'accorda le plaisir amer d'une dernière promenade dans la ville. Elle avait été trop belle pour ne pas exhaler encore, dans sa destruction même, un charme suffocant, et il dut contenir une émotion puissante à la vue de ses ruelles effondrées et de ses palais éventrés, dont le marbre noir, sous la poussière, prenait un aspect tragique. C'était plus qu'un gâchis, c'était un désastre. Au fur et à mesure qu'il grimpait vers le sommet, indifférent aux beautés intactes de la vallée, sa poitrine s'emplissait d'une rage énorme contre les ennemis. Le raid des terres du centre lui avait paru absurde, maintenant il lui paraissait blasphématoire. La cité aux 100 000 marches, dont on voyait le noir rayonnement depuis le fond de la vallée, mettrait des décennies à renaître de ses décombres, de ses gravats, de ses escaliers déchirés en des angles bizarres qui dressaient leurs mutilations vers le ciel. Il ne put accéder à la plus haute place, faute d'un chemin praticable, et jeta d'en bas un œil sinistre sur le drapeau indifférent, étrangement vierge de l'humiliation qui l'entourait. Puis il se hâta de redescendre, et pendant tout le trajet qui devait l'amener à Nulm, il ne prononça pas un mot. Le clapotis de la mer, que l'on devinait dans la nuit profonde autour de la forteresse, était couvert par les bruits incessants des véhicules, les éclats de voix et les claquements de portes depuis la fin de l'après-midi. Nulm n'avait pas connu de semblable effervescence depuis de longues années, et ses résidents permanents assistaient, l'air un peu perdu, à l'afflux désordonné des officiers et des préfets, qui semblaient rassemblés plus que par les ordres, par un sentiment de détresse unanime. Dansk était arrivé tard et tentait de se frayer un chemin jusqu'au quartier général, inattentif au tumulte qu'il était obligé de traverser et bousculant sans cesse des gens hésitants et anxieux qui regardaient son uniforme avec un absurde espoir. Cette atmosphère le rendait nerveux et lorsqu'enfin il parvint à destination, il ouvrit la porte du quartier général d'un geste brutal. La salle, apparemment vide, était plongée dans la pénombre, envahi par une odeur écœurante de vieilles pierres et de sueur. Ses dimensions et son style presque antique le saisirent, comme à chaque fois qu'il y pénétrait. « Dansk ? » entendit-il. Il tourna la tête vers la voie et distingua une silhouette que l'uniforme rendait familière. Puis la lumière se fit, et il reconnut le général Holt. Dansk s'approcha et se laissa pesamment tomber sur un fauteuil près du sien. « Holt, dit-il après un silence. « Dites-moi franchement, pourquoi l'ambassadeur a-t-il fait construire tant de belles cités sans rien pour les défendre ?» Holt eut un sourire là, qui fit apparaître dans son visage épais une grâce fugitive. « Vous êtes injuste, Dansk. Les 100 000 marches seront reconstruites. Et les morts seront ressuscités. Si vous voulez mon avis, Bartok n'avait même pas envisagé cette guerre. Soyez honnête, personne ne l'avait envisagé. L'ancien des terres du centre a eu un coup de folie que personne ne pouvait prévoir. Il n'y a pas que les terres du centre, Holtz. Il y a aussi la Tellurie et l'Occident. Un traité militaire de cette envergure ne doit pas passer inaperçu, même à l'Olympe. Il faut croire que si. » Dansk soupira et laissa son regard vagabonder autour de lui. Les colonnes, les voûtes, les moulages, les carrelages précieux. La restauration de Nulm avait coûté le prix d'une flotte supersonique tout entière. Vous ne me demandez pas ce que font les autres ? Ils sont tous morts, peut-être ? Holt s'éclata d'un petit rire nerveux. Non, ils ont accompagné la délégation. Ils espèrent obtenir une audience exceptionnelle. En communication directe ? Holtz acquiesça. Ils ne l'auront jamais, reprit Dansk. Depuis 27 ans, Bartok n'en a accordé aucune. On n'a même pas eu droit à une image ou à un discours en direct. Je sais. C'est pour ça que vous êtes resté là ? Disons que j'ai jugé plus utile de prendre du repos. Les ordres tomberont probablement avant le jour. Dansk le considéra un moment, puis se rendit compte qu'il était lui-même épuisé. « Vous avez raison, pour une fois, » murmura-t-il. Holtz souriait, mais ses yeux étaient déjà fermés. Dansk se cala dans son inconfortable fauteuil d'époque et se concentra pour dormir. La lumière, dont la prévenance était électronique, commença à décliner au bout de 5 minutes de silence et la vaste salle voûtée retomba bientôt dans la pénombre. Quelques étages plus haut, dans l'une des plus belles salles de la forteresse, où chaque dalle portait la gravure d'un ornement différent et où le dôme du plafond arborait une très ancienne fresque géométrique, les 2 douzaines de dirigeants, civils et militaires, qui recevaient leurs ordres de l'ambassadeur, se pressaient avec animosité autour de l'officier supérieur de liaison. Ce dernier, un homme assez jeune, mais d'une prestance peu ordinaire, semblait attendre, avec un certain agacement, que le silence se fît. Il faisait un effort sur lui-même pour accepter l'invasion du sanctuaire où il avait l'habitude de régner en maître, et se préparait à devenir la cible des récriminations sans fin qu'il allait susciter dans moins d'un instant. « Messieurs, s'il vous plaît, » dit-il sans élever la voix. Puis il attendit le silence complet. « Comme vous deviez vous y attendre, l'ambassadeur rejette votre demande d'audience exceptionnelle. » La nouvelle ne provoqua pas les remous que Sein avait redoutés. Au contraire, elle n'eut pour effet immédiat que d'aggraver encore l'expression d'accablement qui unissait l'assemblée. Bartok partage votre douleur et votre deuil des cités détruites, mais il estime que notre arsenal ne nous permet pas de contre-attaquer. Ce qui signifie, demanda un général. Ce qui signifie, reprit Sein, qu'en dehors du renforcement de la protection des points stratégiques définis hier, il n'a fixé aucun nouvel objectif militaire. Le mot d'ordre est d'attendre. Va-t-il régler la question de manière diplomatique ? Demanda un préfet. Il ne s'est pas encore exprimé sur ce point. En somme, maugréa un général, nous avons le droit d'assister sans rien faire au massacre du Septentrion. Sein eut un sourire froid. Je ne pense pas que votre analyse soit très orthodoxe, mon général. L'ambassadeur garde bien entendu la situation en main. Cette remarque fit fuser quelques rires cyniques auxquels il préféra ne pas prêter attention. Dut-il être le seul à maintenir sa confiance en Bartok, et fût-ce dans des circonstances telles qu'aujourd'hui, il serait toujours son partisan, avec toute la loyauté et toute la mauvaise foi que cela impliquait. Avez-vous d'autres questions, messieurs ? Il y eut quelques murmures qui s'éteignirent sans que personne prît la parole. En ce cas, je vous invite à redescendre dans vos quartiers et à prendre un peu de repos, dit-il assez sèchement. Un à un, ils vidèrent les lieux, et Sein, une fois seul, alla ouvrir toutes les fenêtres en grand, comme pour permettre à l'air marin de chasser la rémanence de leur présence. La nuit avait rendu la forteresse à elle-même, on n'entendait plus de moteur, et la majeure partie des lumières s'était, comme à l'accoutumée, éteinte. La mer et le ciel, dans le noir, s'épousaient dans le lent mouvement du ressac et la plainte irrégulière du vent. Le document vidéo montrait les 100 000 marches du temps de leur splendeur. L'improbable cité noire, qui comptait autant d'escaliers que de bâtiments, scintillait en haut du pic comme un diamant complexe. Bartok, avec davantage de fierté que de colère, en buvait les images. Il avait été son grand architecte, son grand bâtisseur. Cette merveille était née de sa volonté, et il importait peu qu'elle fût détruite, du moment qu'elle avait existé. Il se souvenait de l'enthousiasme de son peuple lors de ses années de grands travaux, ainsi que de son propre souffle, et admirait rétrospectivement l'envergure de son entreprise et sa réussite éclatante. Il n'était pas surpris d'ailleurs par la liste des villes bombardées. Il connaissait assez Yorick pour savoir où il aimait frapper, et Yorick ne frappait jamais au hasard. Chaque bombe avait mis un symbole en miettes, chaque attaque était destinée à l'une de ses œuvres. C'était une guerre contre Bartok qu'il menait, plus qu'une guerre contre le Septentrion, une guerre idéologique qui prouvait magistralement à quel point la civilisation guerrière l'emportait sur la civilisation de l'art. Bartok rit dans sa solitude, en songeant qu'il recevait aujourd'hui la réponse à une conversation engagée plus de 25 ans auparavant, à une époque où le Septentrion et les terres du centre étaient en paix et juraient de le rester, quand, pour tuer le temps, il se faisait battre aux échecs par Yorick. Tout cela s'évanouissait dans un passé si lointain, comme si l'emprisonnement dans l'espace donnait accès à un temps élargi, en quelque sorte éternitaire. Bartok se leva. Les images sur l'écran projetaient sur ses statues et sur ses meubles des lueurs changeantes tandis qu'il faisait le tour de son refuge. Aujourd'hui avait été le 10 000e jour de sa réclusion, un anniversaire funèbre qu'il ne savait pas encore comment célébrer. Il fut interrompu dans ses réflexions par la sonnerie de la ligne interne et se dirigea avec une lenteur excessive vers l'appareil. Celui qui l'appelait avait tout son temps, lui aussi, et savait bien qu'il finirait par décrocher. On pouvait compter sur de telles certitudes à l'Olympe. « Oui, » dit-il d'une voix vide de toute curiosité. « Bonsoir, mon cher. » La voix déformée par l'âge était celle de Yorick. « Que me vaut le plaisir de cet appel ?» demanda Bartok avec une profonde courtoisie. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être avoir un entretien diplomatique avec moi et le seigneur de Tellurie. » « Mais sans le prince d'Occident ?»«
Oui. »
Bartok rit encore, à part lui. « C'est regrettable, dit-il. C'était le seul parmi vous trois à qui j'aurais pu accorder un semblant de confiance. « Dois-je en conclure que vous déclinez mon offre ?»«
Je n'ai pas dit cela.
Où suggérez-vous que nous nous rencontrions ?»«
Dans l'antichambre sud de la salle centrale. »«
À quelle heure ?»«
Dans 2 heures. »
Un rendez-vous en pleine nuit et sans témoin dans les parties neutres ?
Oui.
Pensiez-vous sérieusement que j'allais accepter ?
Yorick émit un son qui ressemblait vaguement à un rire.
C'est un de mes principes que de toujours essayer. Convié par le serpent au rendez-vous du scorpion le soir de ma 10 000e nuit. Vous pouvez m'y attendre, je pense que j'y serai. Puis il raccrocha brusquement. Son cœur, si habitué à la lenteur, s'était mis à taper sourdement dans sa poitrine, tandis qu'il se sentait saisi d'une sorte de vertige. L'ancien lui proposait sa propre mort sur un plateau, et sa mort rayonnait comme une issue inespérée, absolvant dans son miracle le passé et l'avenir, une issue hors de cet espace dont il était là jusqu'à la nausée. Il tenta de se reprendre et de se calmer, et reprit sa marche circulaire autour de ses statues. L'idée que cet entretien pût ne pas être un piège ne l'effleura même pas, et il ne remit pas un instant en question cette certitude qui lui venait peut-être d'une trop longue habitude du lieu et de ceux qui le hantaient, comme si les souverains enfermés avaient fini par tisser entre eux des liens au-delà du langage qui délivraient des messages impossibles à crypter. Non, son hésitation venait du Septentrion, qu'il répugnait à abandonner maintenant, mais Lioa était prête, le remplacerait sur le champ et se chargerait de cette guerre aussi facilement que lui-même. Il n'avait que quelques gestes à faire, 2 heures lui suffisaient largement, et il pourrait quitter ce refuge pour toujours et s'épargner la maladie, la vieillesse qui le guettait entre ses 4 murs, s'évader de cette ronde infernale dans laquelle les plus brillants esprits étaient devenus fous et décider quelque chose pour la dernière fois. Un grand calme venait de succéder à son vertige, et son cœur maintenant battait comme au ralenti. Il avait du mal à reconnaître le sentiment qui tombait sur son âme et qui effaçait doucement tous les autres. L'angoisse et le scrupule, doucement, s'atténuaient sous son effet tout-puissant. Puis, le nom de ce sentiment lui revint à l'esprit. Bartok était en paix. Dansk se réveilla aux petites heures de la nuit, courbattu par un mauvais sommeil, et l'esprit encore plein des images de son cauchemar. À côté de lui, le général Holtz semblait dormir paisiblement, et Dansk essaya de ne pas faire de bruit en quittant la salle. La forteresse s'était endormie,
La foule sans but qui l'avait encombrée semblait, comme une marée de fantômes, s'être dissipée dans les épaisses murailles. Le général Dansk et Sein, l'officier supérieur de liaison, s'étaient liés d'amitié pendant leurs longues études à l'école du commandement, et manquaient rarement une occasion de se voir, occasion qui était devenue exceptionnelle depuis que Sein avait pris ses fonctions auprès de l'ambassadeur et qu'il était assigné à résidence à Nulm. Dansk avait tenté de le dissuader de prendre ce poste, mais il reconnaissait aujourd'hui que peu de fonctions auraient aussi bien convenu à son goût du calme et de la solitude. Sein n'était pas un meneur d'hommes, mais un manieur de concepts. Malgré tout le respect que Dansk lui portait, il s'était étonné de sa carrière militaire, lors même qu'il présentait un profil si proche de celui du technocrate. Fasciné par le martèlement de ses propres pas dans les galeries désertes, il ne se hâta pas et emprunta une succession de larges escaliers et de colimaçons obscurs pour se rendre au dernier étage sans rien perdre des drapés immobiles de la pierre et des ombres, ni de l'odeur salée de la mer qui s'infiltrait parfois par les fenêtres. Arrivé au seuil des immenses appartements de Sein, il se contenta de frapper quelques coups à la porte. La petite caméra de sécurité fit un mouvement et bourdonna légèrement, puis la porte s'ouvrit précipitamment. « J'ai pensé que tu étais habitué à être dérangé à toute heure du jour et de la nuit, » dit Dansk. « Entre !» répondit Sein en lui tendant la main. Ils se sourirent un moment en silence, puis Dansk franchit le seuil, où il savait que l'on ne pénétrait que rarement, avec une certaine précaution. Sein souriait, mais il était manifestement mal à l'aise. « J'imagine que tu ne reçois pas grand monde, » dit Dansk pour s'excuser. « Oh, je viens de recevoir une bonne douzaine de personnes, alors tu sais... »« Je peux m'asseoir ?» Sein eut un moment de confusion et lui indiqua un siège relativement éloigné de l'ordinateur de liaison. « Est-il contraire au règlement que je te rende cette visite ?» demanda Dansk en s'asseyant. « Non, pas du tout. Il serait contraire au règlement que tu puisses voir l'écran de l'ordinateur à moins de 5 mètres lorsque je suis en communication avec Bartok, » précisa-t-il, en s'efforçant de plaisanter. « Mais je suis sûr que cela ne se produira pas. » Dansk hocha la tête. La solitude et le secret avaient provoqué en son ancien ami une métamorphose si subtile qu'il doutait qu'il pût un jour maintenant redevenir ce qu'il était. « N'est-ce pas trop oppressant de vivre ainsi ? » s'inquiéta-t-il. « À te voir, on pourrait presque croire que tu es un clandestin. »« Tous les jours ne sont pas aussi cruciaux qu'aujourd'hui, » répondit Sein. « Je dois être un peu anxieux. » « T'a-t-on dit que je revenais du Nord ?»« Oui, les 100 000 marches, je suis au courant. » Dansk baissa la tête. Il n'avait soudainement pas envie de prononcer les banalités d'usage qui auraient peut-être détendu l'atmosphère. Il se sentait déçu par cet ami que le pouvoir avait enfermé dans une gangue opaque. « Je suppose que tu ne peux pas non plus échanger avec moi quelques innocentes analyses politiques ?» Sein eut un sourire contraint. « Désolé, Dansk, ce n'est pas la nuit pour des retrouvailles entre amis. » Le général allait lui répondre lorsque l'ordinateur se mit à émettre une lumière éblouissante doublée d'une sonnerie continue. Sein se précipita vers le terminal sans un regard pour son hôte, et Dansk, qui se concentra sur son profil, put le voir lire et pianoter sur le clavier. Habitué comme il l'était à vivre dans un monde dont l'ambassadeur était absent, où il n'était qu'une vague transcendance dépourvue de visage et de voix, qui se tenait au sommet invisible de la pyramide, il avait du mal à prendre conscience de ce qu'il voyait. Sein était en train de communiquer avec cette transcendance, de lui poser des questions, de prendre acte de ses réponses, et Dansk évalua en un instant la distance qui le séparait du commun des mortels. Sein était comme le mystique, entré par miracle dans le Verbe de Dieu. Il n'avait plus rien à dire, plus rien à faire avec un général en quête de réconfort par une nuit de défaite. Il n'était pas vraiment aux côtés de Bartok dans l'Olympe, mais il n'était pas non plus à ses propres côtés à Nulm. Dansk se souvint à son propos d'un concept étrange des anciennes religions, celui des limbes, espaces d'errance et de vide qui se trouvaient entre les mondes et dont les âmes prisonnières vouées à l'éternel mouvement ne pouvaient s'échapper. Sein se trouvait là, quelque part à la frontière entre deux réalités irréconciliables, en un lieu où seul Bartok pouvait encore l'atteindre, à travers les nuées numériques, comme s'il était pour jamais décorporé. La communication ne dura pas plus d'une minute, et Sein resta un moment immobile et silencieux devant l'écran de veille. Des mauvaises nouvelles de l'Olympe, se hasarda le général. Sein avait toujours le regard fixe, et il parut à Dansk qu'il était plus pâle que tout à l'heure. J'ai souvent été tenté de révéler ce que je venais d'apprendre, dit Sein d'une voix lointaine, mais la tentation n'a jamais été aussi brûlante. Dansk resta muet quelques secondes, puis il fit un effort sur lui-même et se leva. En ce cas, je crois que je ne resterai pas une minute de plus, dit-il. Sein le regarda. Pour la première fois depuis tout à l'heure, Dansk eut le sentiment de le reconnaître et eut un sourire de gratitude. « Je ne te raccompagne pas, dit-il. » Le général haussa les épaules. « Je me demande vraiment ce que je suis venu faire ici, dit-il en riant. » Puis il se dirigea vers la porte, et comme il sortait, il ressentit quelque chose qui tenait à la fois de la tristesse et du soulagement. Mais il lui fut impossible de retrouver le sommeil cette nuit-là. Un sourire vague, solitaire, traversait ce soir le visage de Bartok, tandis qu'il se dirigeait à pas lents vers le lieu de l'entretien. Pour la première fois depuis un temps si long que sa mémoire ne le mesurait plus, il jouissait d'un sentiment de liberté presque absolu. C'était peut-être cela qui le faisait sourire, de ce sourire si lumineux, dans le décor désolé des couloirs neutres, ce contraste entre la guerre qui ensanglantait le septentrion et son intime, son inaliénable sérénité. Ce rendez-vous était un guet-apens, et cette pensée éclairait encore son sourire, car il savait que la défaite tomberait à son heure, comme un couperet, sur les victoires passagères de ses assassins. Lorsqu'il entra, il eut le temps d'apercevoir le corps déjà à moitié détruit de l'ancien, trônant sur son siège comme une statue écaillée. Puis il y eut l'éclair de douleur dans son flanc, et le visage bestial de Drial surgissant d'un espace d'ombre, le visage écumant du bourreau jouissant de ses basses œuvres. N'était la douleur qu'il n'avait pas imaginée si aiguë. Bartok eût volontiers continué à sourire, mais son corps, à son âme défendante, lutta instinctivement pour sa survie, et sa bouche exhala des gémissements involontaires. Le vieux Yorick, qui vivait depuis plusieurs années dans les ténèbres d'un crépuscule permanent, dardait inutilement ses yeux blancs, comme un rapace nocturne ébloui par la lumière, vers les deux formes étreintes à quelques mètres de lui. Il ne les discernait pas, mais il ne perdait rien de la respiration saccadée de Drial, ni des râles de Bartok, et se délectait du bruit de succion immonde que devait faire la lame en se retirant. « Drial, chien de l'enfer » murmura-t-il. Sa voix tremblante s'épandit dans le vide, tandis que les bruits s'intensifiaient. Celle de Bartok, réduite à un souffle, lui répondit au bout d'un long moment. « Vous n'y gagnerez rien. » « Tais-toi, » trancha Drial. « Je te signale que tu es en train de crever. » Le vieillard émit un long et sombre gloussement. « Cette petite fête est vraiment charmante. » Lorsqu'il cessa de rire, le silence était revenu dans la pièce et Drial s'était relevé. « C'est fini, vieille carne, tu peux arrêter de rire. »« Comment est-il ?» Comme un mort, les yeux ouverts, du sang dans la bouche, le tout dans une position plutôt inconfortable. Est-ce qu'il sourit ? Drial observa attentivement le visage tendu de Yorick, mais ne regarda pas celui du cadavre de Bartok. Non. Il n'a pas l'air apaisé ? La mort fait mal, mon cher. Il n'y a que dans les histoires qu'on raconte le soir au vieillard qu'elle apporte la paix. Yorick eut un geste agacé de la main, et son regard vide se pencha vers le sol. « Nous disposons d'une douzaine d'heures, » dit-il froidement. « Pas moins ?»« Non. »« Et les autres ?»« Nebelwyr est peut-être déjà au courant avec sa machine diabolique. Quant aux autres, peut-être une heure. »« Eh bien, je te laisse garder le corps, comme ça vous pourrez échanger vos impressions. » Yorick devina une forme noire qui s'éloignait, et éprouva une sorte de soulagement à l'idée de se retrouver seul avec le cadavre, sans témoin, dans une intimité paisible. Encore une fois, la mort venait de passer à côté de lui sans le prendre, et son passage le laissait toujours un peu plus vivant, un peu plus ferme. Il n'y avait rien de si rassérénant que la compagnie d'un mort. Une fois qu'on dépassait la version première, on se trouvait en présence du mystère, on pouvait le toucher, et il devenait tout à coup plus naturel et plus facile. Il se prit à sourire dans le vide et traîna son corps tremblant vers le cadavre. Il s'agenouilla auprès de lui et, à tâtons, chercha le visage de sa main. Il fut surpris de la tiédeur humide du sang, mais, délicatement, caressa de ses doigts noueux les lèvres du mort. Il savait bien que Drial lui avait menti, et que la bouche serait figée dans un rictus indéchiffrable. Il toucha longtemps ce sourire muet, invisible, en songeant qu'il en percevait peut-être davantage la portée par le toucher que par la vue. Puis il tapota la joue et remonta jusqu'aux yeux, qu'il ferma. À quelques couloirs de là, le prince double d'Orient s'éveillait en sursaut, couvert d'une sueur aigre, hanté par la vision d'un cadavre lacéré au couteau.